Philippe.
Et bonjour Gaël.
Nous sommes dans cette série d'émissions consacrées à l'espérance dans la Bible et depuis un certain nombre d'émissions, nous étudions les textes de l'Apocalypse. Lors de notre dernière émission, nous en étions restés sur la guérison de la cinquième tête de la bête, une bête que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Cette tête, selon la Bible, correspond à la papauté médiévale. Nous avions commencé à évoquer la guérison de cette tête qui avait été blessée à mort, mais nous avons compris que celle-ci n'est pas encore totalement guérie. Elle serait plutôt en convalescence. Finalement, nous pouvons dire que cette bête reprend, si je peux me permettre l'expression, du poil de la bête, et elle reprend en tout cas de l'assurance. Elle est en action avec les autorités de notre monde. Alors, Philippe, où en sommes-nous avec cette convalescence, cette guérison, et bien entendu, puisque c'est cela que nous étudions, cette prophétie?
Eh bien, d'après la Bible, la guérison sera totale lorsque la papauté retrouvera son éclat comme au temps du Moyen-Âge. Mais si vous le voulez bien, je vous invite à relire encore une fois le verset 3 du chapitre 13 de l'Apocalypse, ce qui nous permet de nous situer. « Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Si je peux le dire, nous en étions restés sur une opération de séduction du Vatican à l'égard des nations du monde. Au pape Paul VI avait succédé Jean-Paul Ier, qui malheureusement, lui, a connu un règne de courte durée, 33 jours. Et puis Jean-Paul II, un pape polonais, de son nom Karol Wojtyła. C'est lui qui lui a succédé. Jean-Paul II considérait que son église était le monde entier, un pape globe-trotter, si on peut le dire. Élu en 1978 et 9 ans plus tard, il avait déjà parcouru plus de 465 000 kilomètres, visité les 5 continents, tenu plus de 1200 discours, et au cours de 35 voyages, il aura visité pas moins de 300 villes à travers le monde. Ce pape, qui considérait que ses voyages étaient apostoliques, se rendit auprès de toutes les diverses religions du monde, musulmans, hindous, athées, catholiques, protestants, juifs, etc. En fait, ce pape, il incarnait la conscience morale du monde en tant que berger mondial de ces diverses religions. Il se considérait aussi comme le garant de l'unité chrétienne, et pas seulement, car son but était l'unité de tous les chrétiens dépassant le concept de confessions diverses, et tout cela dans le cadre futur d'une seule et unique religion mondiale renouvelée. D'ailleurs, dans la continuité du Concile Vatican II, les voyages du pape devaient servir à rapprocher les grandes religions du monde entre elles. Une fois réalisé, le pape se présentera comme le porte-parole de l'ensemble du monde. À ce moment, la blessure mortelle sera pleinement guérie.
Effectivement, Jean-Paul II a été un pape dynamique et lorsque nous relatons son parcours, nous constatons qu'il a contribué à la restauration de l'image de la papauté.
Complètement. Et nous ne faisons que survoler ses actes. Par exemple, un fait qui est important bibliquement. Rappelez-vous le verset 2. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Eh bien, un élément de ce verset s'est réalisé sous le règne de Jean-Paul II. L'histoire nous a fait comprendre qu'en 1929, la papauté a retrouvé son trône et qu'il lui restait à retrouver de la puissance et une grande autorité. Depuis 1867, l'Amérique du Nord n'avait plus de relations officielles avec les États pontificaux. En 1984, les USA échangent des ambassadeurs avec le Vatican. Chose encore impensable quelques années auparavant car les protestants et les catholiques étaient en guerre. Rappelez-vous dans les années 1970, les bombes à Belfast, en Irlande du Nord. Et puis, ces protestants des USA sont les descendants des pionniers qui ont fui le catholicisme qui les persécutait un siècle ou deux plus tôt.
Vous voulez dire que durant ces années 80, les États-Unis ont donné de la puissance à la papauté?
C'est pas moi qui le dis, hein, mais l'histoire. Je vous invite à lire de brefs extraits d'une rubrique tirée des archives ouvertes et qui s'intitule « Les États-Unis et le Vatican, analyse d'un rapprochement de 1981 à 1989 » écrit par Mary Gate. Au tout début de la présidence, et là nous parlons de Ronald Reagan, il semble que l'administration ait pris conscience que ses déclarations à l'emporte-pièce sur l'Union soviétique et l'éventualité d'une guerre nucléaire avaient suscité une vive inquiétude aux États-Unis et en Europe. Dans ce contexte, associer le président au pape dans les yeux de l'opinion publique, avec tout ce que cela pouvait impliquer, ne pouvait être que bénéfique pour redresser une image fort détériorée. Le président Reagan, lors de ses rencontres avec les représentants du Vatican, va constamment souligner la proximité de leurs aspirations. Ainsi, lors de la présentation des lettres de créance de Pio Laghi à la Maison-Blanche, il déclare « J'ai confiance que ce dialogue renforcé débouchera sur une coopération et une compréhension encore plus étroite entre nos deux gouvernements qui sont foncièrement en accord sur les enjeux majeurs de notre époque, tels que la justice, les droits de l'homme, la paix et le progrès. » À Fairbanks, en Alaska, le 2 mai 1984, Reagan, aux côtés de Jean-Paul II, prend des accents de chef spirituel. « Nous rentrons tout juste d'une mission de paix et je ne peux envisager meilleure conclusion à ce voyage que d'être ici en présence de votre sainteté, qui avait œuvré avec tant de diligence pour la reconnaissance des droits de la dignité et de l'individu, ainsi que pour la paix entre les nations. » Notre déclaration d'indépendance affirme à 4 reprises la dépendance de notre pays envers l'être suprême. Quand j'ai débuté ce voyage le dimanche de Pâques, j'ai demandé au peuple américain de se joindre à ma prière pour la paix. Une prière pour que les nations du monde renoncent aux souffrances et aux déchirements de la guerre et apprennent à vivre dans l'amour des uns pour les autres. Les prières simples des personnes de bonne volonté peuvent faire bien plus que tous les hommes d'État et toutes les armées du monde réunies. Le monde ne connaîtra une paix et une entente véritable que lorsque la communion des hommes en Dieu le Père sera reconnue et acceptée. Votre sainteté, pour nous, le Saint-Siège et votre œuvre pastorale représentaient l'une des plus grandes forces morales et spirituelles au monde.
Effectivement, ces quelques lignes nous montrent un rapprochement évident entre les deux chefs d'État et donc également entre les deux pays. Mais pour autant, je n'ai pas le sentiment que le président américain semble se mettre sous l'égide du Vatican.
Non, bien sûr, mais je vous rappelle les faits historiques, tels que la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, suite à une entente parfaite entre les USA qui exerçaient une pression militaire sur l'URSS et le Vatican qui, lui, de son côté, minait la stabilité intérieure par l'utilisation de Solidarnosc, dirigée à l'origine par Lech Walesa. Rappelez-vous, ces événements ont créé une surprise mondiale. Alors, écoutez pour conclure ces articles d'archives, le paragraphe en parlant toujours de Ronald Reagan. Plus généralement, il place son action sous l'autorité morale du pape, déclarant que ce dernier guide et inspire dans une certaine mesure les décisions prises par son administration. Ainsi, plusieurs semaines avant son audience du 7 juin 1982, déjà, il déclare « J'ai hâte de recevoir de nouveaux conseils de la part de sa sainteté le pape Jean-Paul II au cours de l'audience que j'aurai avec lui en juin. » Une fois l'audience passée, il y fait allusion à plusieurs reprises et pas nécessairement devant des publics catholiques. Il déclare par exemple « À Rome, j'ai consulté sa sainteté le pape dans le cadre de notre quête permanente pour la paix. » Ou encore, devant les Nations Unies, il dit « Au cours de l'audience que j'ai eue récemment avec sa sainteté le pape Jean-Paul II, je lui ai donné l'engagement du peuple américain de faire tout notre possible en faveur de la paix et de la réduction des armements. » Toutes ces lectures sont tirées d'ouvrages émis par le Saint-Siège et de différents auteurs que nous pouvons retrouver sur le site « Les archives ouvertes ». Et celles-ci sont diffusées par le Centre pour la communication scientifique directe, CCSD. Encore une fois, l'histoire atteste la réalisation des prophéties. Et dans ce cas, la bête reçoit sa puissance et accomplit ainsi encore une partie du deuxième verset d'Apocalypse 13.
Bien, merci Philippe pour ces précisions historiques qui confirment les écrits d'il y a 2000 ans. En regardant, on se rend compte également que l'histoire est en train de se répéter comme à l'époque où la papauté a progressivement pris le pouvoir en Europe à ses débuts.
Je dirais même plus, Gaël, ce qui était extraordinaire, c'est que la Bible nous avait informé que ces événements pouvaient se répéter. Je vous cite l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Donc nous pouvons conclure qu'à partir de 1929, la papauté a retrouvé son trône et qu'en 1984, elle commence à retrouver sa puissance.
Et si je vais dans votre sens, on peut dire qu'aujourd'hui, il ne lui reste plus que la grande autorité pour retrouver sa situation dominante du Moyen-Âge.
Tout à fait, c'est juste bien.
Alors, nous arrivons là au terme de cette émission, et je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans la découverte de ces prophéties de l'Apocalypse qui s'articulent avec notre histoire contemporaine, ce qui nous permet d'ailleurs de nous situer non seulement dans le temps, mais également par rapport à la proximité de la réalisation des paroles de Jésus annonçant son retour. Je vous propose de conclure par quelques mots.
Avec plaisir, Gaël. Un verset tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. »
Merci Philippe, à très bientôt.
À très bientôt Gaël, merci.